Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nines Are Three. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Langage et pouvoir symbolique rassemble des textes dans lesquels Pierre Bourdieu analyse la parole comme une pratique sociale inséparable des rapports de domination. Cet ouvrage de sociologie du langage, dans une édition revue et augmentée de travaux antérieurs liés à ce que parler veut dire, ne propose ni une grammaire ni une théorie linguistique autonome. Son objet est la valeur sociale des façons de parler, des locuteurs et des situations où ils prennent la parole. Bourdieu examine pourquoi certains énoncés paraissent autorisés, crédibles ou efficaces, tandis que d'autres sont disqualifiés même lorsque leur contenu est comparable. Il relie cette différence aux institutions, aux positions sociales, aux titres et aux formes de capital qui confèrent de l'autorité. Le livre critique ainsi les approches qui isolent la langue de son histoire et de ses usages. Il développe une économie des échanges linguistiques afin de montrer comment les marchés de la parole, notamment scolaires, administratifs et politiques, contribuent à la reproduction des hiérarchies sociales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la parole n'agit que lorsqu'une autorité la rend efficace. Bourdieu reprend la question des énoncés performatifs, étudiés notamment par Austin, mais il en déplace le centre de gravité. Dire ne suffit pas toujours à faire. Une déclaration, un ordre, une nomination ou une promesse publique ne produisent les effets attendus que si la personne qui les prononce est reconnue comme habilitée à le faire et si la situation respecte des formes socialement admises. Le pouvoir ne réside donc pas dans une propriété mystérieuse des mots. Il dépend d'une délégation, d'un rituel et d'une institution qui donne au porte-parole le droit de parler au nom d'un groupe ou d'une fonction. Cette analyse permet de comprendre pourquoi un même énoncé peut être reçu comme une décision, une provocation ou une parole sans conséquence selon son auteur et son cadre. Le professeur, le juge, le responsable administratif ou le représentant politique ne tirent pas leur efficacité de leur seule éloquence. Ils bénéficient d'une autorité objectivée dans une position, des titres, des procédures et des signes visibles. En reliant les actes de langage aux conditions sociales de leur réussite, Bourdieu refuse une conception purement interactionnelle de la communication. Il montre que les échanges verbaux condensent des rapports de force déjà constitués et que l'étude du langage doit examiner les mécanismes collectifs qui font reconnaître une parole comme légitime. Deuxièmement, le marché linguistique attribue une valeur inégale aux manières de parler. L'idée de marché linguistique sert à décrire les situations dans lesquelles les locuteurs évaluent, souvent sans calcul conscient, ce qui peut être dit et la manière de le dire. Chaque prise de parole est exposée à une appréciation sociale. Accent, vocabulaire, registre, aisance, correction supposée et capacité à maîtriser les codes attendus peuvent être valorisés ou dépréciés. Bourdieu ne réduit pas cette valeur à une qualité interne de la langue. Elle est produite par des conditions historiques et institutionnelles qui établissent une norme dominante et classent les usages qui s'en écartent. Le trac, l'autocensure, la correction de son accent ou le changement de registre selon l'interlocuteur constituent des indices ordinaires de cette pression du marché. L'école joue ici un rôle décisif car elle consacre une langue légitime et transforme une compétence socialement distribuée de façon inégale en apparente aptitude individuelle. Les locuteurs disposent ainsi de ressources linguistiques inégalement reconnues liées à leur trajectoire sociale. Cette perspective éclaire la portée politique des jugements sur la bonne expression. Derrière une exigence présentée comme neutre, peuvent se loger la valorisation de dispositions propres aux groupes dominants et la disqualification de pratiques populaires ou régionales. L'analyse ne nie pas la nécessité de normes partagées, mais elle demande comment ces normes se sont imposées et quels intérêts elles servent. Troisièmement, la langue officielle accompagne la construction politique de l'État. Bourdieu inscrit la langue légitime dans une histoire de l'unification politique plutôt que dans l'évolution spontanée d'un idiome naturellement supérieur. La généralisation d'une langue officielle appuie sur l'administration, l'école, les concours, les pratiques juridiques et les moyens par lesquels l'État rend ses classifications effectives. Dans ce processus, les parlers locaux et les usages non conformes ne sont pas seulement distingués sur un plan technique. Ils sont hiérarchisés et peuvent être associés à l'ignorance, à la ruralité ou au manque de compétences. La domination linguistique se relie alors à la concentration du pouvoir politique et culturel. Cette approche permet de comprendre pourquoi l'imposition d'une norme commune n'est jamais un phénomène exclusivement linguistique. Elle organise aussi l'accès aux institutions et aux positions où la parole compte. Les personnes déjà proches de la langue reconnue disposent d'un avantage dans les échanges scolaires, professionnels et administratifs. Avantage qui peut ensuite être interprété à tort comme le signe d'un mérite purement personnel. Le livre met donc en garde contre l'illusion d'une langue homogène, identiquement possédée par tous les membres d'une communauté nationale. Une langue commune existe dans des usages et des institutions, mais son appropriation demeure socialement différenciée. L'enjeu est d'analyser les coûts imposés à ceux qui doivent convertir leurs habitudes de langage pour être entendus dans les espaces officiels. Quatrièmement, le pouvoir symbolique transforme la reconnaissance en consentement. Le pouvoir symbolique désigne une forme de pouvoir qui agit parce qu'elle est reconnue comme légitime tout en étant souvent méconnue comme rapport de force. Il ne s'exerce pas d'abord par la contrainte physique ou la sanction directe. Il impose des manières de voir, de nommer et de classer le monde qui paraissent évidentes à ceux-mêmes qu'elles situent dans une position inférieure. Dans le domaine du langage, cette efficacité apparaît lorsque des locuteurs adoptent spontanément le jugement qui dévalorise leur accent, leur vocabulaire ou leur façon de s'exprimer. Bourdieu parle ainsi d'une complicité qui ne doit pas être comprise comme une adhésion libre et lucide à la domination. Elle résulte de dispositions formées dans des univers sociaux où les critères légitimes sont durablement inculqués. La croyance dans l'autorité d'un porte-parole, d'un diplôme ou d'un langage spécialisé peut rendre efficaces des décisions et des représentations qui auraient autrement besoin de davantage de contraintes. Cette notion évite deux simplifications. Elle ne présente pas les dominés comme passifs ou incapables de résistance, mais elle refuse aussi d'expliquer les inégalités par de simples choix individuels. Elle conduit à étudier les conditions sociales de la croyance, de la confiance et de la déférence. Dévoiler ces mécanismes permet de restituer leur caractère historique et arbitraire à des classements qui se donnent volontiers pour naturels. En dernier lieu, la politique est une lutte pour imposer des catégories de perception dans ses analyses du champ politique. Bourdieu montre que la parole publique ne sert pas seulement à informer ou à convaincre sur des mesures précises. Elle contribue à fabriquer les problèmes, les groupes et les oppositions qui deviennent politiquement pensables. Les professionnels de la politique disposent de ressources, d'organisation et d'une maîtrise des formes d'expression reconnues qui leur permettent de proposer des visions du monde aux citoyens. Cette représentation n'est pas une simple traduction transparente des intérêts sociaux. Elle sélectionne des mots, fixe des frontières et rend certaines revendications plus audibles que d'autres. Le capital politique repose en grande partie sur le crédit accordé à des personnes, à des partis ou à des fonctions réputées capables de parler au nom d'un collectif. Il est donc une forme de capital symbolique dépendante de la croyance des groupes qu'il prétend représenter. L'analyse explique aussi la distance entre langage spécialisé et langage ordinaire. Les formes discursives complexes, les procédures et les catégories techniques peuvent réserver la participation effective à ceux qui maîtrisent leur code, tout en maintenant les autres dans la position de profane. Bourdieu ne réduit pas la politique à une manipulation verbale. Il étudie les conditions sociales qui rendent certaines paroles mobilisatrices, crédibles et légitimes. Son apport est de lier l'efficacité des discours aux positions des producteurs, aux institutions de représentation et aux rapports de concurrence qui structurent le champ politique. En conclusion, langage et pouvoir symbolique s'adressent prioritairement aux étudiants, enseignants, chercheurs et lecteurs intéressés par la sociologie, la linguistique, les sciences politiques, l'éducation ou l'analyse du discours. Il sera particulièrement utile à qui veut dépasser l'idée selon laquelle parler correctement relèverait seulement de la compétence individuelle, ou selon laquelle un discours tirerait sa force de sa seule cohérence. Sa lecture fournit des instruments intellectuels pour examiner les situations concrètes de prise de parole. Les effets des titres et des institutions, les normes scolaires, les jugements sur les accents et la production de la représentation politique. Le bénéfice pratique est surtout critique, apprendre à identifier les conditions sociales qui rendent une voix audible et une autre inaudible, sans réduire ces phénomènes à la mauvaise volonté des individus. L'ouvrage se distingue des introductions classiques à la communication ou aux actes de langage par son refus de séparer les mots de la distribution du pouvoir. Là où une approche linguistique peut privilégier la structure de la langue ou l'intention du locuteur, Bourdieu analyse les marchés, les capitaux, les institutions et les croyances qui attribuent une valeur aux énoncés. La densité conceptuelle peut exiger une lecture attentive, notamment pour les lecteurs peu familiers de son vocabulaire. Mais cette exigence correspond à son ambition, montrer que les inégalités se prolongent dans les formes ordinaires de communication et que la parole est un lieu central de leur reproduction comme de leur mise en question. Si vous souhaitez soutenir Pierre Bourdieu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.